Nous sommes mercredi 13 mars 2024 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Jean.
Bonsoir.
Bonsoir Necton.
Salut!
Ah, qui défouraille, ça c'est bien. Et bonsoir Sergi, qui malheureusement ne pourra peut-être pas nous répondre, parce que son micro est en grève pour avoir de meilleures conditions salariales.
Non, il a fait vœu de silence. Son micro, hein, pas Sergi.
Oui, voilà, mais Sergi non, mais son micro, oui. Ah bah oui, mais c'est ça d'avoir un micro très très catholique. Bref. Ce soir dans le Dojo Bar, nous allons parler émulateur, nous allons parler piratage, nous allons parler de Yuzu. Et c'est déjà pas mal comme programme, hein, ça va déjà nous occuper un petit moment. Vous allez voir que on va essayer d'aborder le problème d'un point de vue, on va dire, technico-légal. J'aime beaucoup ce mot. On va essayer de faire ni trop technique ni trop légal, c'est juste qu'il y a quelques petites choses qu'il faut mettre en place pour bien comprendre ce qui s'est passé et ce que ça peut donner pour après. Voilà. Mais on va commencer. Oui.
Petite note quand même, ça pourrait être de la technico-bullshit. Je dis ça, on sait jamais. On n'est pas des professionnels de surentraînés non plus, quoi.
Il y a peut-être moyen que ça tourne très rapidement au bullshito-technique, j'ai envie de dire.
Oui, mais sur une échelle de 1 à Julien Chiez, on s'arrête où?
Alors.
Ça dépend. 1, c'est Julien Chiez ou l'inverse?
C'est que c'est compliqué. Voilà, alors je vais juste faire un tout petit saut parce que nous avons deux articles depuis Dojo Bar.
Promo.
Auto-promo. Un petit instant promo, nous avons un très bel article écrit tout en vert par Monsieur Mecton sur Unicorn Overlord qui vaut le coup juste pour le délire. Voilà, tu as le respect éternel de plein de gens que je connais parce que... Ok les gars.
C'est du boulot à faire, quoi.
C'est, voilà. Mais en vrai, si vous voulez voir la collector d'Unicorn Overlord, dans laquelle il y a plein de trucs, déjà il y a plein de photos de fort belle qualité, et en plus il y a un texte qui l'accompagne qui fait quand même. Qui fait plaisir.
Qui fait rigoler.
Et on est désolé effectivement pour la frustration qu'on va générer chez les gens qui n'ont pas commandé la collector parce que c'est des faibles.
Gros bâtard, ouais.
C'est important. Et deuxième petit truc, on a un article plus de fond, un peu plus technique, sur Renderware, un moteur de jeu qui a eu une importance absolument colossale dans les années 2000 et qui est tombé dans l'oubli. Alors, IEM a tué, c'est à peu près le...
Ouais, c'est chier, comme ça. Hein.
Mais voilà, chier. Donc, si vous avez envie de savoir comment fonctionnaient les moteurs de jeu, on va dire, des années 90, et comment tout ça a fini par donner Renderware, qui, à un moment généré, alors je l'ai pas mis dans l'article, c'est une information exclusive de Jobar que je vous donne là, parce que j'ai trouvé la source, mais j'ai pas trouvé la source de la source. Donc ça m'emmerdait de citer ça. Mais apparemment, pendant un moment, ça faisait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, cette petite histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte. En 2005, 2 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires sur Renderware.
On sait combien EA les ont rachetés. Parce que j'ai transféré ton article à une team à mon boulot, et la théorie c'était, ok, Electronic Arts, ils les ont rachetés juste pour flinguer le moteur.
C'est pas impossible, même si je n'en suis pas si sûr que ça. Les exemples de Renderware sur la Xbox 360 et la PS3 sont pas hyper brillants. Soyons un petit peu honnêtes, à part Burnout Paradise, mais c'est de l'interne, les mecs maîtrisaient leur truc. Mais Crackdown, par exemple, il était réputé pour ramer un peu, pas être très joli et tout ça, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, s'ils l'ont acheté pour le tuer. Si c'est le cas, c'est très con, parce que juste le licensing du truc, c'était quand même 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc quand t'es IA, je sais pas, tu craches pas dessus, quoi.
Oui, c'est pas une paille, ouais.
Alors, je sais pas si ça faisait 2 milliards de bénéfices, encore une fois, c'est du chiffre d'affaires. Donc si ça se trouve, ça rapportait pas grand-chose. Ce que j'ai cru comprendre de la part de Criterion Software, qui était donc la maison mère de Criterion Games, c'est qu'apparemment les jeux rapportaient plus que Renderware. Donc je pense qu'en réalité, ça ne fait pas être si rentable que ça. Mais voilà. Bref, nous fermons cette parenthèse, je vous invite à aller regarder tout ça, je vous assure que c'est intéressant. Et on va commencer les petits sujets d'actualité. Mecton, on va parler du Japon, on va parler de Capcom, on va parler de licenciement.
Ouais, c'est ça. Donc, ben...
Pas du tout.
Non, mais en fait, bon... Si vous suivez l'actu, vous savez que dans le monde du JV en ce moment, c'est pas la méga chouille. Ça y va à coups de charrette chez plein d'éditeurs, développeurs. C'est pas méga lol. Et Capcom a annoncé récemment que bah, chez eux, en fait, les salariés ont été augmentés. Et ça va, tout se passe bien. Donc voilà, c'est encore possible.
Donc les salariés présents ont été augmentés et les salaires des gens qui sont embauchés ont été revus à la hausse aussi dans les grilles.
C'est ça, voilà. Il y a du nivellement, enfin de l'harmonisation. Alors c'est facile de communiquer là-dessus quand ça se passe bien, mais c'est toujours agréable de se dire qu'il y a au moins un éditeur slash développeur chez qui ça continue de se passer bien.
Ça fait effectivement.
C'est bien. Capcom qui embrasse du pognon, ça fait plaisir.
Ça veut dire qu'ils ont fait les bons choix et qu'ils ont vendu les choses correctement. Et...
C'est ça. C'était pas le cas au début des années 2010, on s'en souvient. Mais là, ça fait plaisir. En même temps, avec les remakes et les nouveaux jeux coup sur coup, là.
Ils ont dû se mettre bien l'année dernière aussi. Hein. Parce que Resident Evil 4, Resident Evil 2, enfin c'est quand même Resident Evil 3, les quelques remakes plus les autres jeux qui sont sortis, le 8 qui a, j'ai cru comprendre, plutôt bien marché.
Ouais.
Donc ils ont
le 7 aussi qui avait très bien marché.
Tout à fait, les Monster Hunter, tout ça, mais en fait, on en avait déjà parlé ici, mais c'est vrai que la 360 et la PS3 ont été une espèce de période à vide pour le jeu vidéo japonais. Et c'est vrai que depuis, on va dire, le milieu des années 2010, il y a quand même clairement un rebasculement au Japon de tout un tas de trucs qui fait que le jeu vidéo japonais est de retour, il marche plutôt bien. Donc ça fait plaisir. Merci, ça me fait très plaisir. Je vais enchaîner avec Nintendo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit développeur indépendant.
J'ai entendu parler.
Pas très connu, ouais. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Apparemment, ils ont une console de jeu aussi. C'est un truc.
Attends, ils ne font pas des cartes ?
Ouais, je sais pas.
C'est les mecs qui font des tablettes, là, c'est ça ?
Oui.
Avec des trucs qui s'accrochent dessus. Vous pouvez arrêter de... c'est très perturbant. Donc, Nintendo est officiellement la société la plus riche du Japon. Donc, c'est, grosso modo, la plus grosse valorisation boursière du Japon. Sachant que Sony... Enfin, dans le classement a été fait par je ne sais plus quelle société japonaise qui, en gros, est une plus ou moins une agence de notation financière, qui, en gros, dit Nintendo est la société la plus riche du Japon. Ils ont exclu Sony du classement parce qu'ils ont trop de dettes. Donc, en fait...
Des dettes, d'accord.
Nuls.
En gros, Sony pèse techniquement plus lourd, mais si tu fais passivement actif, basiquement, l'EBITDA moins le résultat actif, enfin bref, je vous passe le calcul, c'est un peu compliqué, Sony est plombé par le fait qu'ils ont énormément de dettes. Mais voilà, donc Nintendo est la société la plus riche du Japon, et cet institut estime qu'ils ont 11 milliards de dollars de cash. C'est-à-dire 11 milliards de trésorerie disponible.
Alors, on me dit dans l'oreillette que Nintendo prévoit donc d'acheter le Japon et ensuite de passer à la Chine.
Et de conquérir le monde. Alors, 11 milliards pour la Chine, il va falloir s'accrocher quand même un petit peu. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est très certainement la société la plus riche du Japon. Alors, c'est une habitude de Nintendo. Pour ceux qui s'en souviennent, à la fin des années 90, Nintendo était réputé pour avoir une quantité de cash en banque absolument hallucinante, et apparemment les mecs étaient assis sur des montagnes et des montagnes de pognon, et ça a toujours été comme ça qu'ils géraient apparemment.
Et ça a toujours été, parce que j'ai toujours l'historique de Nintendo et Toyota qui se tiraient la bourre, ils ont toujours été plus gros en trésorerie alors.
C'est impressionnant, hein. C'est-à-dire que les mecs, il y avait un coffre de banque, ils ont foutu une Wii dedans, et puis quelques années plus tard, c'était plein.
Mais c'est ça, mais tu vois, c'est vraiment... Tu sens la société, tu sais, très, entre guillemets, conservatrice, au sens pas de vagues, pas de dépenses immodérées, ok de la R&D, très bien, mais on garde du cash si on en a besoin, et s'il faut mettre un milliard sur la table, on le fait, quoi. Ce qui est, enfin, c'est quand même... Dis donc, tonton foufu, t'en as pas un petit milliard qui traîne, là, on a besoin d'un truc. Et hop. Et on ne parle que de Nintendo Japon, hein.
Non mais là c'est le trou de lapin par contre.
Je ne sais pas si c'est des résultats consolidés, je ne crois pas, pour moi c'était juste Nintendo of Japan.
Enfin, wow.
Ça vous donne une petite idée. Bref, je repasse la main à Monsieur Mecton pour une bien triste nouvelle, hein, j'ai envie de dire.
Oui, qu'on va débunker tout de suite, vous inquiétez pas. Sautez pas par la fenêtre tout de suite. Enfin, si vous voulez le faire, il y a d'autres raisons, ne faites pas pour ça.
On a fait une recherche Google et on a trouvé.
Voilà.
Ah, merde.
Donc, tout Internet s'affole, ça commence à spéculer à mort sur... quel âge il a ce jeu ? 5-6 ans déjà ? Octopath Traveler a été retiré de l'eShop. Oh mon dieu. What the fuck? Et en fait, c'est tout simplement parce que le jeu est en train de changer d'éditeur. Donc, Octopath Traveler 1 était édité par Nintendo, était une exclu Switch au moment de sa sortie. Octopath Traveler 2 est édité par Square Enix, il est disponible sur plein de plateformes. Octopath Traveler 1, c'est le cas également maintenant aujourd'hui, et du coup c'est Square Enix qui récupère l'édition du jeu. Donc j'imagine qu'ils sont en train de dériver le bon tuyau dans l'eShop, ouais. Et c'est tout simplement à cause de ça.
Et ils vont faire certainement n'importe quoi avec quand ils vont le porter, comme ils font d'habitude.
Ça.
Ton optimisme me...
Écoute, je l'ai mauvaise des Final Fantasy que j'ai connues dans mon enfance et qui ont été massacrées sur PC.
C'est absolument pas vrai.
Si.
D'ailleurs, j'espère que tu attends avec impatience le prochain Final Fantasy. Non. Final Fantasy 8 Remake. C'était rigolo comme blague. Bref, trêve de plaisanterie, ce tour de table de l'actualité est terminé, nous allons passer au premier sujet. Et pour introduire ce sujet, je tiens à remercier personnellement ici Jean Fulgence qui... bien joué, quoi.
J'ai fait un petit machin, une petite sélection,
rigolo.
Là.
C'est un petit peu rigolo.
JBC me corrige, l'exclu d'Octopath Traveler 1, elle a duré que quelques mois sur Switch avant que...
Oui, ah bon, c'était ouais. Une exclu de 6 mois, quelque chose comme ça.
Ah bon.
C'était pas genre sur PC un an ou deux. C'est sorti sur PS4 derrière.
Parce que Triangle, je crois que c'est un an ou deux, par exemple.
Triangle, c'était un an ou deux. Mais bref.
Bref,
nous allons donc nous écouter un petit morceau de la bande originale de Donkey Kong Country 2. Il s'agit du morceau qui s'appelle Jib Jig et qui est donc le morceau des pirates. Voilà, c'est par David Wise donc sur la bande originale de Donkey Kong Country 2 et on se retrouve dans 2 minutes. Et nous voilà de retour. Et donc, nous allons entamer cette, on va dire, première partie sur Yuzu. Il fallait quand même qu'on refasse un petit tour de ce que c'est qu'un émulateur, comment ça fonctionne, quels sont les principes techniques qu'il y a derrière. On va essayer de faire, encore une fois, très très court, très, on va dire, haut niveau. Je voudrais éviter de trop perdre les gens, on va dire ça comme ça.
Certains diront bâclé.
Ils n'auront pas complètement tort, là. voilà, donc on va essayer de faire un petit mumbo-jumbo comme ça pour dire, bon voilà, l'état de l'art c'est à peu près ça, donner quelques exemples historiques d'émulateurs qui se sont fait striker ou pas, parfois c'était des émulateurs communautaires, parfois c'était des trucs commerciaux, parfois des trucs pas commerciaux, vous allez voir qu'il y a plein d'applications de ce truc-là, et on a quelques exemples donc d'émulateurs commerciaux qui sont entre guillemets qui se sont un peu fait bâcher, et d'émulateurs commerciaux qui fonctionnent. En fait, vous en avez déjà forcément eu sous les mains d'une manière ou d'une autre. Alors, on nous demande, est-ce que Yuzu, ça a un rapport avec Koshiro ? Je dis non.
Oh.
Je dis non à cette blague. Bref, donc commençons par, c'est quoi un émulateur ?
C'est quoi un émulateur ?
Merci.
Alors, c'est un logiciel qui, avec du software... fait du hardware.
C'est exactement ça. C'est recréer de manière logicielle un truc qui existait de manière matérielle. Donc c'est simplement se dire, le fonctionnement du microprocesseur, c'était ça. Il était capable de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des décalages aussi mis. On va refaire un programme qui fait exactement ce que faisait ce processeur, sauf qu'on va le mettre dans une autre machine, finalement. On va aller recréer de manière logicielle quelque chose qui était fait de manière matérielle. Donc ça, c'est, si on résume très 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 rapidement, l'émulation, c'est ça. C'est de se dire, j'avais une Super Nintendo, dedans il y a plein de composants, je vais aller recréer tous ces composants individuellement, de manière logicielle, donc avoir un petit morceau de code qui va faire le processeur, un petit morceau de code qui va faire la partie PPU, donc le processeur d'image, un petit morceau de code qui va faire le son, un petit morceau de code qui va faire le décodage, etc. etc., etc. Voilà. Ça, c'est un émulateur. Maintenant, deuxième chose qu'il va falloir arriver à distinguer très rapidement, c'est la différence entre un brevet et du copyright. Alors j'utilise volontairement le terme américain de copyright, parce que c'est pas tout à fait pareil que le droit d'auteur qu'on a en France en particulier, en Europe de manière générale.
Ouais, c'est droit à la copie, il y a une nuance à la con.
Ah, vous m'apprenez un truc, là.
Mais c'est très subtil.
C'est assez subtil, ouais. Donc, c'est pas... En gros, on peut regrouper tout ça sous le terme copyright, ça pose pas trop de problèmes. Mais voilà, techniquement, nous, en fait, on a la définition telle qu'elle avait été faite par... J'ai plus son nom.
Un type.
Non, mais un type bien.
Un type bien.
Voltaire. C'est Voltaire. Non, c'est pas Voltaire. Beaumarchais, pardon.
T'es sérieux ?
Oui, c'est Beaumarchais, les droits d'auteur.
Putain, ok, bah j'apprends plein de choses.
Alors, elle est drôlement bien cette émission.
Mais dis-moi, mortel.
Alors, alors, le truc est intéressant, mais en gros, il y a deux. Pour Beaumarchais, il y avait deux droits d'auteur. Il y avait en gros le droit dit patrimonial, c'est-à-dire que tu crées une œuvre, elle est à ton nom, et tu n'as, entre guillemets, pas le droit de la renier.
C'est ça, c'est inaltérable, c'est le droit à la paternité de l'œuvre.
C'est ça.
Tu ne peux pas le vendre, tu ne peux pas le donner, c'est. Voilà.
Exactement. Et t'as pas le droit de le céder et tout ça, c'est-à-dire qu'une œuvre, aussi abjecte soit-elle, te sera toujours attribuée. Par exemple, Sonic appartiendra toujours à Sega. C'est important.
Alors, j'avais un exemple des heures les plus sombres de notre histoire, mais oui, Sonic, ça marche aussi.
C'est aussi les heures les plus sombres de notre histoire. Pardon, du Japon, excusez-moi. Voilà, donc, quoi qu'il arrive, Dragon Ball sera toujours l'œuvre de Akira Toriyama.
Qu'il repose en paix.
Qu'il repose en paix. Comme ça, au moins, on l'a cité. Un petit peu, ça fait plaisir. Et ensuite, il y a le droit à la copie. Et en fait, l'idée de Beaumarchais derrière, c'était de dire, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas un mec qui soit en capacité de faire des copies d'un bouquin, puisqu'à l'époque, on parlait surtout de bouquins, que finalement, l'auteur ait le droit d'aller contacter le fabricant de copies qui voulait, donc l'éditeur qui voulait, pour faire son livre, mais qui pouvait en contacter un, deux, trois, mais c'est lui qui gardait l'exclusivité du droit à produire et à autoriser à la production de copies. Parce qu'en réalité, c'est ça l'origine. Et dans l'imaginaire de Beaumarchais, l'idée c'était de dire, il faut que l'auteur puisse se protéger pendant un temps raisonnable, et qu'ensuite l'œuvre devienne publique, c'est-à-dire que les droits patrimoniaux restent, mais le droit à la copie disparaît.
C'est du bien commun ou c'est encore autre chose ?
Alors c'est encore autre chose puisque c'est du domaine public, c'est pas tout à fait du bien commun.
Ok.
En fait, ça s'élève dans le domaine public, donc ça devient du bien commun, mais c'est pas la volonté de départ. Le bien commun, quand on parle de bien commun, c'est des gens qui créent des choses pour que ce soit utilisable par le plus grand nombre immédiatement. Donc là, t'es plus dans les trucs genre copyleft et autres. Voilà. Je ferme cette petite parenthèse qui était beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. Toujours intéressant. Donc il y a un distinguo très très important à faire entre le brevet et le copyright. Est-ce que vous connaissez la différence ?
Je tente, je fais le niais. Le brevet, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, tu as breveté, tu touches des ronds ?
Alors c'est plus subtil que ça.
C'est plus subtil que ça.
C'est plus subtil que
ça. Il me semble. Alors le brevet.
Faites chier, je voulais breveter le double clic.
Si par exemple Nintendo pond un brevet pour telle technologie. Si tu veux faire la même chose, t'es obligé d'acheter le brevet, enfin de payer des ronds à Nintendo, mais d'acheter le brevet. Alors, et personne d'autre peut le faire.
Techniquement, un brevet, ça protège une idée. Donc par exemple, mecton, imaginons que tu as inventé le décapsuleur à bière qui fonctionne en serrant les fesses.
Oh.
Tu peux breveter l'invention, ça veut dire que quelqu'un qui veut produire un décapsuleur à fesses est obligé de te demander soit l'autorisation, soit effectivement des ronds.
D'acheter l'idée, quoi. Okay.
D'acheter l'idée. Donc, en gros, un brevet, ça protège une idée. C'est limité, normalement, à 15 ans. C'est éventuellement renouvelable sous certaines conditions. Et surtout, alors, je parle du cas américain, là, encore une fois. Aux États-Unis, tu poses un brevet d'abord et tu poses les questions après. Tu tires d'abord, tu poses les questions après. C'est très américain comme idée. En gros, tu peux nier un brevet. C'est-à-dire, quelqu'un pose un brevet, par exemple, pour la lunette de chiotte qui se relève. Il y a vraiment des gens qui ont fait ça, hein, c'est pas une blague.
Ouais.
En gros, tu peux le nier en disant que soit il y a une invention précédente qui existait déjà, donc le brevet est nul. Donc typiquement, le mec qui a tenté de breveter le rouleau à pizza, oui, il y a vraiment un mec qui a essayé de faire ça. Un mec qui a dit non, on a trouvé un précédent, c'est-à-dire un mec qui avait inventé ça avant, donc t'as pas le droit de le breveter. Ou alors, ton invention est trop générique.
Ouais.
C'est-à-dire que ton brevet doit être normalement précis.
Donc je peux pas breveter le double clic.
Non.
Tu peux pas breveter le double clic. Il y a Apple qui a eu un cas très amusant comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait le fameux slide to unlock.
Oui.
Glissé pour voilà. Donc ils ont déposé un brevet là-dessus qui leur a été alors pas refusé parce qu'en gros l'office américain des brevets prend tout. Mais quand il y a un autre mec qui a fait, donc Apple a attaqué, ils ont dit, c'est notre brevet. Et le mec a dit bah ouais mais gars ça marchait sur les portes pour déverrouiller une porte il y a 1000 ans donc tu fais chier quoi. Donc il y a un précédent.
Ah ouais, d'accord.
Ça peut aller très loin, les histoires de précédents. Hein. C'est vraiment, c'est assez rigolo. Ah, pareil, Apple avait essayé de breveter un truc où c'était, pour l'iPhone, hein, c'était un carré avec un écran. Littéralement, c'était ça, le brevet.
Okay.
Trop générique. Ouais. Donc, ah, il n'est jamais refusé, mais au moment où il faut le défendre, forcément, t'as l'air d'un con. Quoi.
Oui, alors il y avait une condition pour le brevet, c'était d'expliquer très clairement et très précisément comment ça marche, en quoi c'est fait, enfin pas en quoi c'est fait, mais comment ça marche, expliquer, voilà, il y avait des schémas, tout le bordel.
Pour l'office des brevets américains, oui, il y a des choses très très précises.
C'est-à-dire que, voilà, effectivement, le truc glissé pour ouvrir, bon, trop simple.
Bah une porte,
trop facile.
Désolé, un verrou de porte, c'est comme ça que ça marche.
J'imagine la gueule de l'avocat qui s'est pris dans la face. Mec, en fait, ça marchait comme ça sur les portes. Qu'est-ce que tu veux répondre, quoi?
Il y a des cabinets d'avocats dont la spécialité est de produire du bullshit.
C'est génial. C'est génial.
Voilà. Donc, le brevet protège une idée. C'est renouvelable, mais c'est limité. Alors, c'est renouvelable, c'est limité à 15 ans. En gros. Il y a des conditions dans lesquelles ça peut être renouvelable, je vous passe les détails. Le copyright protège une œuvre de l'esprit.
Ah, mais est-ce qu'une idée n'est pas l'œuvre de l'esprit?
Une idée n'est pas une œuvre de l'esprit.
Ah merde.
C'est un peu différent. Donc techniquement, un film, de la musique, un livre, une bande dessinée, une sculpture. Alors, aux États-Unis, une chorégraphie, en Europe, non.
Ah, une choré, on peut... D'accord, on peut copyrighter une choré.
Aux États-Unis, tu peux copyrighter une chorégraphie. En Europe, tu ne peux pas. C'est considéré comme... Bah, on peut pas.
Voilà. Trop simple.
Trop simple.
En Europe.
Alors, c'est un peu abusé. Mais voilà, en gros, tu peux copyrighter la Macarena aux États-Unis, pas en Europe. En théorie, hein, parce qu'en pratique, je pense qu'il y a des trucs... voilà. Et donc, les œuvres de l'esprit, elles, sont protégées 70 ans après la mort de l'auteur, avec tout un tas de règles très compliquées, puisque tu as des sessions possibles, des rétrocessions, des... Enfin, voilà, je vais encore une fois passer le détail, on fait très très simple, mais 70 ans après la mort de l'auteur, si c'est une œuvre composite, 70 ans après la mort du dernier survivant. Donc techniquement, si je prends un film, par exemple, un film de genre Super Mario Bros. Le film, tant que tout le monde chez Illumination, chez Nintendo, n'est pas canné, globalement, le film, il n'est pas dans le domaine public.
Et si tu les butes? Non, pardon.
Attendez, oula, ça devient très très sombre.
Voilà. Je viens d'avoir une idée de business.
C'est 70 ans après la mort, hein, donc il y a quand même 70 ans à pouvoir ôter derrière.
Mon idée de business vient de s'effondrer.
Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu tout un pataquès au début d'année parce que Mickey, elle est tombée dans le domaine public. Et en fait,
oui.
Mickey, c'est pas n'importe quel Mickey, c'est le Mickey de Steamboat Willie, donc le tout premier Mickey. Et ce qui est tombé dans le domaine public, c'est effectivement l'image de Mickey, mais par exemple, son nom n'est pas une œuvre de l'esprit, son nom est une marque protégée. Et les marques protégées sont renouvelables à perpétuité. Donc tu n'as pas le droit d'appeler...
Okay.
Tu n'as pas le droit de créer un ersatz de vache qui rit que t'appellerais Mickey Mouse. Parce que c'est une œuvre déposée, c'est une marque. Donc, il y a encore tout un tas de subtilités. Je vraiment, encore une fois, je vais pas vous noyer là-dedans. Ça fait 10 minutes que j'y suis en tunnel, là, mais tout va bien.
Le droit, c'est chiant. Retenez ça.
Non, le droit, c'est très bien. C'est très rigolo. C'est plein de gens qui...
C'est très compliqué.
C'est très compliqué. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir d'un point de vue de l'émulation, c'est que, grosso modo, du matériel, ça peut être un brevet. Du logiciel, c'est une œuvre de l'esprit. Donc, techniquement, du matériel, c'est du brevet. Du logiciel, c'est de la propriété intellectuelle, c'est du copyright. Voilà. Donc le PPU de la NES, qui a été créé spécialement par Nintendo pour la NES, c'est un brevet. Ce brevet, il a expiré depuis longtemps, puisque c'est 15 ans après qu'il était introduit, donc il a dû expirer vers... Alors s'ils ont renouvelé le brevet, probablement vers 2002-2003. Quelque chose comme ça. Par contre, s'il y a un micro-logiciel qui est nécessaire pour faire tourner le matériel, typiquement, sur GameCube, par exemple, il y a un micro-logiciel. Si vous démarrez la console sans jeu, vous avez bien une petite interface, machin. Ça, c'est le micro-logiciel qui fait tourner la console et qui est appelé, qui propose une petite interface de programmation qui permet au programmeur d'aller dialoguer avec la machine, finalement, d'aller dialoguer avec le matériel. Il ne le fait pas directement, il le fait à travers un petit morceau de logiciel. Ce petit morceau de logiciel est copyrighté, donc lui, il est protégé par la propriété intellectuelle. Alors, 70 ans après la mort de tous les auteurs, donc à mon avis, celui-là, on n'est pas prêt de le voir libéré.
Et c'est l'ancêtre du menu Home.
C'est l'ancêtre du menu Home. Mais voilà, techniquement, le menu de la Wii, typiquement, c'est du copyright. Donc, si tu copies le menu de la Wii, c'est complètement illégal. Si tu le rends disponible sur Internet, c'est complètement illégal. tu copies le firmware de la PS2 pour l'utiliser, parce que t'es obligé pour utiliser un firmware de PS2, tu es obligé de copier le firmware de la PS2. Si tu vas le télécharger, c'est illégal. Si tu vas le récupérer toi-même depuis ta console, c'est une exception à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que tu as le droit de faire une copie pour toi-même d'un truc que t'as acheté.
Oui, tu n'as pas le droit de le distribuer.
Tu n'as pas le droit de le distribuer, ça reste une copie dite privée, c'est-à-dire que tu as le droit de le faire dans le cadre du cercle familial maximum, et le cercle familial étendu ne comptant pas, enfin bref. Je vous passe
et
encore une fois les détails.
C'est la même chose pour les BIOS, il me semble.
C'est ça, bah le BIOS, c'est du logiciel. Donc techniquement, c'est protégé par c'est de la propriété intellectuelle. J'espère que maintenant qu'on a bien posé les bases, on va pouvoir aller. Donc du coup, un émulateur, est-ce que c'est légal, à votre avis? C'est-à-dire reconstruire de manière logicielle un truc qui marchait de manière matérielle.
Eh ben, ça dépend comment qu'on fait.
Eh bien non. Figure-toi que c'est parfaitement légal.
Parce sauf s'ils utilisent un BIOS ou un machin propriétaire. Mais...
Donc le truc, c'est que techniquement, émuler du matériel, ça n'est pas illégal, à moins qu'il soit protégé par un brevet, et même dans ce cas-là, il y a une exception, c'est ce qu'on appelle, alors aux États-Unis, qu'on appelle le fair use, c'est-à-dire que en fait, ça autorise une utilisation limitée de matériel qui est sous brevet ou sous copyright, sans avoir la permission, pour à des fins d'études, de reverse engineering, de choses comme ça. Donc ça, c'est une autorisation qui existe dans le droit américain, qui s'appelle le fair use. Et en l'occurrence, ça va beaucoup vous intéresser, je pense, c'est grâce à Blim, notamment, qu'il y a un juge américain, et ça fait jurisprudence aux États-Unis, qui a dit non, émuler du matériel, ça rentre dans le fair use, donc c'est une exception au copyright, c'est une exception
c'est
au brevet.
Tout à fait.
On a le droit de le faire. Il y a des limitations qui fait que si t'as une puce très très spécifique et qu'on commence à l'émuler, peut-être que ça gueulerait un petit peu dans les coins.
Si je tente l'analogie, c'est tu chopes dans la rue les plans de Notre-Dame, tu décides de reconstruire Notre-Dame dans ton jardin, t'as le droit.
C'est même pas ça. C'est même pas ça, c'est genre tu vas à Notre-Dame, tu refais les plans toi-même, tu le construis dans ton jardin, et ça va, c'est du fair use.
C'est ça.
Ok.
C'est du fair use. C'est-à-dire t'as le droit de l'étudier, t'as le droit de le décortiquer, t'as le droit d'aller prendre un PPU de NES, de l'enlever de la NES, d'aller le sabler pour récupérer le truc, d'aller l'étudier, de le scanner en entier. Tout ça, t'as parfaitement le droit de le faire. Après, il y a une question d'utilisation commerciale de ce que tu fais.
Là, ouais.
Ça commence à devenir plus technique. Et on y reviendra un petit peu après, si vous voulez bien. Voilà, le problème pour un émulateur, en fait, c'est que autant sur de très vieilles machines, je pense à la NES, je pense à la Super NES, je pense à la Mega Drive, je pense à la N64, déjà ça commence à être un peu discutable. En gros, il n'y a jamais, il n'y a plus depuis au moins une trentaine d'années, il n'y a plus de console dans lequel il y a juste du matériel. T'as souvent du matériel et un petit morceau de logiciel qui va avec. Même un petit morceau de logiciel.
Mmh.
Voilà. Donc c'est intéressant de le savoir, hein. Quand tu fais un émulateur PlayStation, par exemple, eh ben, en réalité, t'as un morceau de logiciel qui s'intercale entre le jeu et le matériel. Il y a un petit morceau de logiciel qui est utilisé,
ouais.
Et qui lui est de la propriété intellectuelle, donc tu n'as pas le droit de le copier.
Et c'est le problème un petit peu qu'avait eu Connectix avec son émulateur qui s'appelait Virtual Game Station. Voilà. Et les mecs au départ utilisaient le BIOS de la PlayStation, et même ils ont demandé, ils voulaient commercialiser leur machin, ils ont demandé à Sony tout ça, puis Sony a dit bah non, c'est à nous le BIOS, nique-toi. Et du coup bah ils ont reverse engineering, ils l'ont mis en C, et puis nique-toi Sony, en gros.
Bah ils l'ont réécrit et du coup bah ça c'est pas illégal.
Ils l'ont réécrit, du coup voilà, ils l'ont refait de toutes pièces, et bon il y a eu des poursuites, tout le bordel, etc. Mais ça a été jugé comme bah non, ils l'ont refait de toutes pièces, c'est plus, ça vous appartient plus vraiment. Enfin, ça vous appartient pas parce qu'ils n'utilisent pas un truc propriétaire de Sony.
Voilà, c'est ça, ils n'utilisent pas un truc propriétaire
de
Sony.
Ils ont repris un truc qui marche.
Pour ceux qui en douteraient, hein, les machines dites... Alors, pour les vieux, hein, je pense, les années 80. Quand IBM sort le PC, ce que vous utilisez actuellement tous les deux, là, hein, vous utilisez un PC, sauf si vous avez un Mac
computer.
Et que vous n'avez pas le personal computer... Donc le standard PC, IBM utilise un BIOS, et donc IBM a tout pensé, ils ont pensé exactement la même chose, ils se sont dit, bah voilà, le processeur, on peut le protéger par un brevet, mais en fait le x86, le brevet avait déjà un petit peu, enfin, n'était pas expiré, mais disons que faire un clone n'était pas particulièrement compliqué. Par contre, là où c'est assez rigolo, c'est qu'il y a des mecs qui ont reverse-ingénieré le BIOS d'IBM pour pouvoir vendre des IBM compatibles. Parce que c'est comme ça qu'on appelait un PC au départ. C'est exactement dans le même système, les mecs ont réécrit un BIOS en mode nique-toi.
Ouais, c'est alors, comme démarche, c'est un petit peu taquin.
Bref, donc on va revenir sur quelques exemples du passé, vous allez voir que ça va nous éclairer pour arriver à un peu mieux comprendre ce qui s'est passé avec Yuzo.
Car il faut connaître son histoire pour ne pas... Attends, non, on s'en fout, pas grave.
Non, on s'en branle. Un des premiers... Alors, les émulateurs tels que vous les connaissez aujourd'hui, donc des émulateurs, je pense que tous les gens qui nous écoutent en ont déjà utilisé, même sans le savoir, vous en avez utilisé en réalité. Mais on va dire les émulateurs sur PC, ça a commencé... le premier qui a été un petit peu populaire s'appelait Nesticles. Donc un jeu de mots avec testicles, hein, bien sûr.
Ah, mais je dis, c'est volontaire.
C'est volontaire. Et qui était un émulateur NES qui est sorti vers 97, dont le développement s'est arrêté vers 99, et qui émulait à peu près 70% de la librairie de la NES. En 97, sur un projet qui était non payant, non commercial, et qui en fait ne visait pas particulièrement à l'exhaustivité, c'est-à-dire à émuler absolument tous les jeux parfaitement, il est passé, on va dire, un petit peu inaperçu vis-à-vis de Nintendo, ça restait un truc assez de niche. Et je connaissais très peu de gens qui avaient un PC qui permettait de faire ça, parce que ça, c'était un peu gourmand en plus. Vous vous rappelez, 97, hein, la NES, elle a, la fin de vie, c'est 94, fin de vie commerciale.
Ouais, mais même, elle, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les constructeurs et tout ça s'inquiétaient pas trop à cette époque, c'est que tout simplement, il y avait quand même pas beaucoup de monde qui avait des PC, puissants, et c'était quand même relativement marginal comme pratique.
Puis, alors déjà très marginal, et puis en plus je pense qu'ils s'en branlaient un petit peu, puisque je rappelle que, enfin, à la fin des années 90, tu pouvais aller dans n'importe quel Micromania, Score Games, ou je sais
Score
pas quoi,
game.
Et tu pouvais acheter, les jeux NES, tu pouvais les acheter au kilo, hein, parce que tout le monde s'en branlait, quoi.
Ouais.
Le rétro gaming est un concept qui n'existait pas, ou quasiment pas.
C'était la belle époque.
Je connais des gens au tout début des années 2000 qui avaient comme ça fait le plein de jeux Super NES qui étaient sous blister neuf machin en allant faire des radias chez les Micromania et Score Games. Je peux vous garantir qu'ils se sont mis bien. Hein. Parce que bon, quelques années plus tard, c'était plus la même. Bref, donc je le cite, histoire de le citer, c'est un des premiers émulateurs qui a vraiment eu un nombre conséquent d'utilisateurs, en tout cas au départ. Mais encore une fois, pas d'utilisation commerciale, pas de distribution à très grande échelle, même si c'était disponible sur Internet. Voilà, encore une fois, peu de gens ont un ordinateur, encore moins de gens ont Internet. Finalement, c'est pas si grave que ça, puis c'est sur une console qui était clairement 97, la NES.
Oui, qui était enterrée, quoi.
C'est ça. Un des premiers émulateurs à se faire attaquer s'appelait Ultra HLE. Alors moi, je m'en rappelle parce que je l'avais quand j'étais petit.
Le type hacker.
J'étais un vilain pirate, là. C'est un émulateur Nintendo 64 qui a été développé entre 1998 et 1999, et en fait, Nintendo l'a attaqué avec le même genre d'argument qu'il a attaqué Yuzu, c'est-à-dire « Vous empêchez de vendre notre console qui est en cours le truc commercial, là, à cause de vous, il y a des vilains pirates qui peuvent profiter de tout. » Ultra HLE devait être compatible avec genre 4 jeux, dont Super Mario 64 et Zelda, qui se vendaient par cajou, hein, donc... Voilà. Et étant donné les conditions dans lesquelles on y jouait, parce que c'est un émulateur N64 qui est relativement vieux, alors déjà les émulateurs N64 aujourd'hui sont pas brillants.
Ouais, c'est très compliqué à émuler la N64 apparemment.
Donc je vous laisse imaginer un truc qui a 25 ans, il devait être compatible avec 5 jeux et demi, et compatible, bon, fallait pas demander à avoir du 30 images secondes. Bon, de toute façon c'était pas non plus 30 images secondes sur la N64.
Sur la console c'était pas non plus le cas, mais bon.
Voilà, mais
c'était
ça fait fidèle
jusqu'au bout finalement.
C'est ça, le truc était d'une précision absolument terrible. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir une première ligne rouge, en tout cas pour Nintendo, c'était de dire si l'émulateur est actif quand la console est encore commercialement disponible, ça pose un vrai problème. Je pense que pour Nintendo, c'est le truc qui pose problème, c'est ça. Finalement, tu fais un émulateur pour Virtual Boy. Je pense que tout le monde s'en branle un peu.
faudra trouver le public, hein, parce que.
Non mais par contre, si un jour Nintendo commence à vendre une compilation les meilleurs jeux du Virtual Boy pour Switch, peut-être que là, ça commencera à poser un petit problème. Et encore.
Je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas tenté le coup sur la 3DS, mais
je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus. Bref.
Non, parce qu'ils veulent pas qu'on sache que ça existait, hein, tout simplement.
C'est possible. Bref, donc la ligne rouge, ça semble être ça. Maintenant, on a quelques cas un peu intéressants, donc d'émulateurs commerciaux. On avait parlé de Virtual Game Station tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle aussi de Blim, qui était intéressant.
C'est une histoire de fou.
Alors Blim, c'est un truc assez foufou. Jean, si tu veux entamer un peu.
Alors, attends, je suis pas au fait, donc commence.
Alors, c'est reverse engineering complet de la PlayStation.
Oui, voilà, c'est ça.
Y compris le firmware et le BIOS.
Wow.
Enfin, voilà, donc les mecs ont commencé en se disant de toute façon on va réécrire un firmware parce que là-dessus on va se faire baiser. Ça veut dire qu'ils avaient quand même une petite équipe d'avocats derrière qui devait les conseiller un petit peu, je pense. Ils requéraient toujours un disque d'origine parce que la PlayStation fonctionnant avec des CD qui n'étaient pas particulièrement chiffrés ou protégés en fait.
Que dalle. Je me rappelle, tu mettais le CD sur ton lecteur PC, tu pouvais dumper les fichiers sans problème, quoi.
C'est ça, t'avais accès à l'intégralité du jeu sans problème. La difficulté, c'était de faire tourner un CD gravé sur PlayStation, mais le jeu lui-même, tu pouvais le récupérer. Et même, tu pouvais ripper la musique et tout ça, tu vois, ça, c'est un format CD.
Alors, je connaissais une technique pour faire tourner un jeu gravé sur sans puce ni quoi que ce soit. C'est un peu...
Le disque swap.
Ouais, et ça marche très très bien, c'est ça qui est impressionnant.
Et voilà, mais en gros, les mecs avaient Blim, donc l'objectif, c'était de commercialiser le truc. C'était vendu, de mémoire, $20 ou $30.
C'était $30.
$30, merci. L'idée, c'est que ça requierait toujours le CD d'origine. Et en réalité, ça regardait pas si le CD était gravé ou pas.
Oui, non, mais les mecs, ils vendent le truc, ils vendent, voilà, c'est un émulateur, ça joue les CD, et après, si toi, tu fournis des ROM, ça les concerne plus, les gars.
C'est ça,
c'était ça l'idée.
Pirate le CD, bon, eux, ils ont fait leur boulot.
La démarche est bizarre, les mecs ont émulé tout le truc, sauf la petite sécurité qui vérifiait si le CD était d'origine.
Bah, ils peuvent pas le faire, en fait, parce que c'était une sécurité matérielle. Faut le savoir sur
Ah, c'est con, ça.
Ok.
Donc, tu peux pas le vérifier. Donc, si tu mets un CD gravé, techniquement, ça fonctionne.
Fallait peut-être faire un logiciel pour ça, du coup.
Mais par contre, je voudrais quand même vous faire remarquer, c'est que, finalement, Sony gagne un petit peu d'argent sur la vente d'une PlayStation, mais pas tant que ça. Donc, c'est quand même intéressant.
Sur les jeux, par contre.
Sur les jeux, par contre, ils se font pas mal de thunes. Donc là, du coup, ça, entre guillemets, n'entamait pas leur business là-dessus. Ça permettait à des gens qui n'avaient pas de PlayStation, ne souhaitaient pas en acquérir, finalement, de payer $30 et ensuite d'acheter leur jeu PlayStation.
L'émulateur était plus performant que la console. Il faisait une amélioration graphique de fou furieux.
C'est ça.
Et d'ailleurs, Sony avait attaqué là-dessus aussi à l'époque.
Et en mode, c'est une mérreprésentation, c'est une misrepresentation en anglais, hein, mais c'est une mauvaise représentation des jeux PlayStation. Les jeux étaient plus beaux, mais eux, ils disaient
oui,
non,
c'est
des images de marque, vous comprenez, c'est...
Sony l'avait très 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 mal pris. Hein.
J'ai une question qui fait peut-être petite parenthèse, mais mettons Sony attaque Blim, Blim perd. Est-ce que Sony récupère les sources de l'émulateur pour
alors,
voir comment ils ont fait, tu vois.
Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas.
Truc marrant, avec l'émulateur précédent, du coup, Virtual Game Station, ils l'ont acheté, Sony.
Oui, ils l'ont acheté pour
le détruire. Et depuis, il n'existe plus.
C'est ça. Ils l'ont acheté pour le fermer. Donc c'était vraiment ok, vénère.
Quoique, vu qu'il y a de l'émulation sur PS3 des jeux PlayStation 1, faut peut-être se poser la question si ça se trouve, le truc a servi. On sait pas.
C'est possible. C'est un peu douteux. Alors je me permets de vous faire la remarque. Donc la PlayStation utilise un processeur MIPS. Le processeur MIPS, il est bien connu et en fait il est émulable depuis de nombreuses, nombreuses années. Donc en fait les mecs de Blim se sont pas trop cassés la nénette là-dessus. Hein.
La preuve, il y avait dans Mario 64, il y a MIPS.
Il y a aussi du MIPS sur
c'est le petit lapin. Il s'appelle MIPS.
Oui, il s'appelle MIPS, mais c'est en hommage justement au processeur.
Et ouais.
Et donc du coup, ça, émuler un processeur MIPS, c'est un truc qui se fait depuis... il n'y a pas de brevet là-dessus particulièrement, donc en réalité, c'est pas la partie compliquée. La partie compliquée, c'est éventuellement si... Alors je sais pas si la PlayStation a une puce graphique particulière, il me semble que oui. Ça déjà, c'est un peu plus technique. Bref, donc BIM.
À mon avis, ouais, sans le schéma, tu rigoles 2 minutes, quoi.
Ouais, je pense que tu dois te marrer un petit peu, mais il y a des gens qui sont très très doués pour ça. Blim est même sorti sur Dreamcast, ça s'appelait Blimcast.
Oui.
Et donc l'idée, c'est que tu mettais le disque de la... Alors, licencié par Sega, hein, attention.
Oui, non,
c'est quand même assez pété.
Derrière, ils ont sorti des manettes qui étaient adaptées pour le truc et tout. C'est un truc de
ouf. C'est un truc de ouf. Donc les mecs arrivent et te disent, t'as une Dreamcast, bah tu mets le CD de Blim, il charge. À un moment, il te dit, bah tu peux ouvrir et mettre ton CD de Metal Gear Solid, tu fermes et t'as Metal Gear Solid sur ta Dreamcast.
En plus beau.
En plus beau. Donc tu m'étonnes que Sony les a attaqués.
Ouais, ils étaient légèrement verts, à mon avis.
Ils étaient légèrement vénères. Et donc, en fait, Sony a attaqué Blim, et en fait, ils les ont attaqués jusqu'à ce qu'ils jettent l'éponge. En fait, à un moment, ils ont obtenu des ordonnances restrictives de la part de juges américains pour dire « Vous arrêtez de vendre Blim ». À chaque fois, Blim a réussi à se défendre, et en moins de 2 semaines, en gros, l'idée, c'était « Toutes les copies de Blim sont interdites à la vente ». T'imagines, les mecs sont obligés d'appeler tous les magasins des États-Unis pour dire « Vous arrêtez de vendre les copies de Blim ». Et tu vois un peu les ordonnances restrictives, ouais. De ouf. C'est assez chaud. Et sauf qu'à chaque fois, Blim est arrivé en disant au juge, bah non, vous n'avez pas le droit de bloquer ça, vous pouvez nous tuer en termes de business. Et puis en plus, en réalité, on a tel argument, hop. Et donc, ils ont réussi à renverser plusieurs fois cette décision-là.
C'est ça. À chaque fois, ça tombait soit sous le coup du fair use, soit il y avait un délire aussi, un moment, sur leur jaquette et tout ça. Blim, il mettait un comparatif, du coup, performance, enfin, de la qualité d'image entre PlayStation et Blim.
Et c'est de la publicité comparative.
T'avais Sony qui avait été là-dessus, et le juge avait dit, bah non, c'est la publicité comparative. Du coup, et ça marche.
Aux États-Unis, la publicité comparative est parfaitement autorisée à condition qu'elle ne mérepresente pas l'un ou l'autre des produits. C'est-à-dire, si elle est honnête et équitable, elle a le droit. Donc c'est quand même un peu particulier. Le truc, c'est que Blim, ça leur fait mal, tu vois. 2 semaines pendant, même si ça dure que 2 semaines, ne pas commercialiser Blim, alors que c'est vraiment le truc, un logiciel un peu chaud du moment, ça les pénalise énormément. Et en fait, ce qu'a fini par faire Sony, c'est par menacer les revendeurs qui vendaient des PlayStation et Blim de ne plus les alimenter en PlayStation ou en jeu PlayStation. Ah.
C'est ça, ils ont attaqué directement,
on va dire, les intermédiaires de la distribution.
C'est ça, les intermédiaires. En fait. Et là, c'est dégueulasse. C'est vraiment l'aveu d'échec, je trouve. Mais effectivement, c'était un peu la sanction commerciale, si tu veux.
C'est ça. C'est à un moment, malheureusement, Sony, là-dessus, ils ont une force de frappe qui était bien supérieure à la petite société Blim qui a fini
mais
par...
Mais finalement a gagné tous ces trucs, mais bon, ils ont laissé tomber, quoi.
Bah, perdu à cause du grand capital, on peut le dire.
C'est ça. Ça fait partie de ces histoires où tu te rends compte qu'effectivement, l'argent, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Malheureusement, ça fait beaucoup. Et donc, on a un deuxième petit exemple rigolo d'émulateur qui n'était pas commercial à l'origine, c'est Dolphin. Dolphin, c'est l'émulateur GameCube, qui tourne très très bien, qui est un émulateur communautaire.
Très chouette.
C'est devenu commercial ?
Alors, ils ont essayé de sortir sur Steam.
Alors, je ne sais pas si c'était payant, par contre.
Je ne sais pas si c'était payant, mais le problème, c'est que Nintendo a considéré que c'était une utilisation commerciale. C'est-à-dire, même si c'est gratuit, le fait que ce soit licencié pour Steam le transforme automatiquement en utilisation commerciale. Et il se trouve qu'à l'intérieur de Dolphin, il y a une clé qui est utilisée pour décoder en fait les jeux GameCube. C'est la même clé pour tous, mais cette clé, ça n'est pas du matériel, c'est donc du logiciel, c'est donc de la propriété intellectuelle, c'est donc protégé.
Et donc ils se sont vite fait attaquer par les ninjas Nintendo.
C'est ça. Et Nintendo a donc répliqué très très vite. Et ils ont pas attaqué Dolphin directement, parce que c'est de l'open source et techniquement c'est pas illégal. Mm-hmm. Par contre, ils ont dit à Steam, vous ne pouvez pas distribuer du matériel qui est sous copyright Nintendo sans notre autorisation, ce qui est vrai.
Bah ouais. Voilà. C'est le jeu ma pauvre Lucette. On est quand même dans un monde où quelque chose qui est gratuit, c'est quand même considéré comme commercial. Ce qui est balèze.
Bah là, je pense que l'argument c'était surtout, le copyright protège ce morceau de code, précisément. Donc Steam n'a pas le droit de le faire distribuer ou de le distribuer sans reverser quelque
c'est
chose à Nintendo ou sans avoir l'autorisation.
J'imagine que la clé elle doit faire 8 octets à tout péter. Quoi,
non mais c'est un truc comme ça. Mais j'imagine surtout le tu vois tonton Fufu qui appelle Gabe Newell en mode « Eh ma gueule !» C'est non. je pense que c'est dans ce genre de cas-là que t'aimerais bien être une petite souris dans le bureau de Nintendo, parce que je pense qu'il y a des trucs très très bons.
Tout ça pour juste certainement une suite de chiffres, genre c'était 1, 2, 3, 4 le machin. Et
il y a moyen que ce soit
fini.
Je suis 11 milliards monté sur Burn, mec, tu peux pas.
C'est ça, ouais. 11 milliards montés sur une paire de couilles, donc tu n'y arriveras pas. Néanmoins, j'aimerais quand même préciser que là on parlait d'émulateurs commerciaux, il y a des émulateurs commerciaux qui sont parfaitement légaux. C'est quand même important de le savoir. Si vous avez joué à une compilation genre Mega Man Collection, si vous avez joué à Shantae qui est ressorti sur Switch, le tout premier Shantae qui était sur Game Boy Color, tout ça utilise des émulateurs commerciaux qui sont parfaitement légaux.
Le Switch Online de Nintendo.
Le Switch Online de Nintendo est fait par Nintendo.
Oui, je vais vous buter. C'est un émulateur, c'est ce que je veux dire.
Le Mario 3D Collection.
Oui.
Oui.
Les consoles mini, effectivement.
Les consoles
mini. Zergin le dit dans le chat. Les consoles mini, l'émulation sur PlayStation 3 et 4.
Pensez-y, sur PS5, il y a une Castlevania compilation qui est sortie. Il y a même plusieurs compilations Castlevania qui sont sorties, dans lesquelles il y avait les jeux NES, il y avait les jeux Game Boy Advance. Tout ça, c'est de l'émulation. Et c'est parfaitement légal. Et je suis à peu près certain que Konami ne verse pas un centime à Nintendo là-dessus.
Bah déjà, de Konami donner de l'argent.
Konami prendre de l'argent. Voilà, mais donc sachez que ce soit la console virtuelle de la Wii, qui je rappelle faisait aussi de l'émulation de TurboGrafx 16, donc une console pas du tout Nintendo, de l'émulation de console Sega et ainsi de suite. La seule chose que vous achetez quand vous achetez un jeu console virtuelle, que vous achetiez puisqu'on peut plus le faire, que vous achetez une compilation, finalement, c'est la propriété intellectuelle, c'est le droit.
C'est le droit d'utiliser.
D'utilisation, c'est la licence, la licence que vous acquérez pour le jeu en question. Mais finalement, la couche d'émulation, elle est parfaitement légale. On a le droit de le commercialiser. Ça ne pose absolument aucun problème. Je précise aussi qu'il y a des projets très sérieux. Hein, je pense à MAME, Multi-Arcade, je sais plus quoi, Emulator, qui est le projet qui fait de l'émulation arcade. Donc il y a, je sais plus combien, de centaines de cartes d'arcade qui sont émulées par MAME. Ce qui est, c'est un projet très 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 impressionnant, même, qui est très important pour la préservation du patrimoine vidéoludique, parce que bah, y a tout un tas de jeux qu'on ne pourrait plus jouer si on n'avait pas MAME. Et donc MAME a une licence qui lui permet d'être commercialisée, c'est-à-dire que bah, si tu veux faire ta console mini, tu peux aller appeler un éditeur comme SNK, tu peux aller licencier MAME, et puis pouf, construire ta petite bande d'arcade, et c'est parfaitement légal. Il n'y a aucun souci, tu as le droit d'utiliser MAME, juste si tu en fais une utilisation commerciale, tu verses ta petite obole. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pareil, voilà, tu as envie de recréer, tu as envie de vendre un cabinet Street Fighter 2 moderne, tu as envie de recréer une bande d'arcade Street Fighter 2 et de payer le truc, tu vas voir Capcom en disant bonjour, je voudrais une licence Street Fighter 2, tu vas voir MAME en disant bonjour, je voudrais une licence commerciale, tu peux fabriquer ton cabinet d'arcade et le vendre.
Voilà. Et les Hadouken seront bien gardés.
Voilà. Donc maintenant qu'on a mis au point tout ça, je suis désolé, c'était un peu long, mais c'était nécessaire, tu vois, d'aller bien poser les choses pour être certain qu'on a bien tout compris et qu'on va pas aller dire des grosses conneries, parce qu'on a déjà eu des gens qui se sont un petit peu excités sur Twitter en mode « Vous défendez Yuzu !» Non, non, on défend les émulateurs de manière générale parce que c'est pas illégal. Maintenant, vous allez voir que Yuzu et les règles du jeu, ils ont un peu joué avec le feu.
Ouais.
Et... Bon, on détaillera ça un petit peu après. Bref, on va faire une seconde pause musicale, évidemment.
Merci Zergy.
Parce que... Oh. Dégueulasse, va.
Non, mais les préliminaires, c'est important, il a raison. Voilà, on va faire une deuxième petite pause musicale qui va être...
Toujours aussi rigolote, parce que l'intérêt d'un gag, s'il n'est pas drôle la première fois, c'est de le répéter.
Tout à fait. Donc on va écouter un petit morceau de la bande originale de Mario Party 2, vous vous doutez bien, c'est Pirate Island. C'est composé par Yamamoto, original, Bando et Sawaguchi. Ça dure 2 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc on va enfin pouvoir aborder Yuzu. Alors.
Aborder ? Ah !
Yeah !
Alors, Yuzu, c'est un émulateur open source pour Switch qui a été créé en 2018. Et vous dites, mais la Switch est sortie en 2017, ils ont déjà créé un émulateur en 2018. Qu'est-ce que la baise ?
Parce que ces gens n'ont aucune limite.
Ces gens n'ont aucune limite. Mais en fait, faut savoir que la Switch utilise une puce qui est bien connue puisqu'elle date de 2013. Est-ce que Nintendo te vend du hardware qu'à 10 ans ? Oui.
Oui.
Et pendant 10 ans.
Et pendant 10 ans. Donc une puce qui était déjà bien connue et sur laquelle il y avait déjà eu pas mal de travaux. Donc en fait, je vais pas dire qu'ils n'ont pas de mérite, mais globalement, il y a déjà pas mal de choses au niveau du matériel qui était déjà possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait surtout pas mal d'améliorations en fait par rapport à ce qui est capable de faire une Switch. Typiquement, on peut débrider les FPS, on peut overclocker le processeur, on peut overclocker la RAM, donc la RAM qui est émulée à l'intérieur de Yuzu. Hein. Et donc du coup, bah, on peut faire tourner Witcher 3 à 60 FPS par exemple. Oh. Ce qui n'est pas le cas sur une vraie Switch.
Alors tu peux, mais elle prend feu.
C'est une possibilité.
Elles font. Mais quand elles font, tu peux faire des speedruns avec normalement.
un des petits trucs, c'était de dire tu peux faire tourner Tears of the Kingdom en 60 FPS et avec un pack de texture HD, donc en 4K, avec un pack de texture très très haute définition. Donc ça fait partie des petits trucs que tu peux faire si t'as un PC assez costaud, hein, parce que bon, faut quand même, y a un petit peu de la bestiole. Alors un des trucs par exemple qui fait tiquer par rapport au cas qu'on a cité précédemment, donc Blim par exemple, ou les émulateurs commerciaux que vous avez l'habitude de faire, c'est que là c'est un petit peu compliqué de jouer avec les jeux originaux. Parce qu'il n'y a pas trop de lecteurs de cartes Switch sur PC. Donc ça pose quand même petit problème. Donc ça veut dire qu'il faut dumper ses jeux soi-même, sauf que dumper ses jeux soi-même, ça veut dire craquer sa Switch.
Ouais.
Et que craquer sa Switch, ben, t'as le droit de le faire, c'est pas interdit.
C'est pas très légal pour autant.
C'est contourner une mesure de protection, mais tant que c'est, entre guillemets, à titre personnel, c'est-à-dire tu craques ta Switch pour dumper tes jeux, ça pose pas trop de problème, en soi, mais c'est quand même, donner publiquement des mesures qui permettent de contourner une protection, c'est moyennement légal. Donc, divulguer publiquement ce genre d'informations peut être illégal. En l'occurrence, généralement, ça tombe dans le coup du fair use, puisque bah, c'est permettre à l'utilisateur de pouvoir appliquer son droit au fair use et de faire des copies de ses jeux. Ça, c'est la théorie.
Ouais, dans la pratique, il vaut mieux éviter de jouer au con. Parce que bon, j'ai jamais vu quelqu'un qui mettait les plans pour percer un coffre de banque sans être ennuyé.
Voilà, mais techniquement, c'est de l'éducation. Après, c'est toujours pareil. Si tu donnes les plans pour fabriquer une bombe, est-ce que t'es responsable si quelqu'un fabrique la bombe ? Ça peut se discuter. On est toujours dans une espèce de zone un peu grise. Donc là, c'est... Jusqu'à présent, je vous ai dit, on a bien clarifié en première partie. Hein. Il y a blanc, il y a noir, il n'y a pas de problème. Hein. L'émulation, c'est parfaitement légal. Tout ce qui est copyrighté, c'est parfaitement illégal. Voilà, on a clairement mis ça. Là, on est malheureusement dans une zone un peu grise où, de temps en temps, on a eu des jugements qui disaient pas légal, et puis de temps en temps, on a eu des jugements qui disaient bah oui, mais en fait, si l'utilisateur veut pouvoir appliquer son droit à la copie privée, bah, il est obligé de contourner les mesures de protection. Donc, est-ce que le fait d'indiquer comment contourner les mesures de protection est réellement un problème ?
C'est vrai que ça, c'est un peu nébuleux.
C'est malheureusement un petit peu nébuleux. Bref. Donc ça repose forcément la question du piratage contre l'émulation, hein. On va être clair, Yuzu servait forcément aussi à pirater des jeux, hein, soyons parfaitement honnêtes. Maintenant, ça pouvait aussi servir à des gens qui avaient acheté Tears of the Kingdom de juste se dire « Waouh, 60 FPS en 4K, c'est drôlement bon !» Et il y en a eu aussi. J'en fais partie, hein. J'ai Yuzu. Je l'ai utilisé pour dire « Tiens, il y a Tears of the Kingdom, il y a un patch qui permet d'avoir le jeu en 60 FPS, est-ce que ça change quelque chose ?» La réalité, pas grand-chose. Hein,
mais... Journalisme total.
Journalisme total, évidemment. Donc, de la part de Nintendo, ça ressemble à ce qu'on appelle un slap suit.
Mais dis-moi, Mortal, qu'est-ce que c'est un slap suit ?
Alors, c'est quand une société, basiquement, va attaquer quelqu'un ou une autre société dans l'espoir d'avoir un règlement amiable. C'est-à-dire que l'idée, c'est les frais d'avocat, enfin, les frais juridiques aux États-Unis, ça peut très vite grimper très très haut. Donc l'idée, c'est de faire peur au mec en face en disant « Bah écoute, on fait un règlement à l'amiable, tu fais ce que je te dis, et on va pas jusqu'au procès. » Si Nintendo avait été jusqu'au procès, aurait-il gagné ? C'est pas évident.
C'est une offre que tu peux pas refuser.
C'est un peu ça, ouais.
Et alors, si vous voulez le sens de l'acronyme, c'est « Strategic Lawsuit Against Public Participation ». En gros,
une baffe.
Voilà. Je tends la main, tu vois, bien droite, et... Fais gaffe.
Bah, c'est basiquement une menace, hein, c'est de dire...
C'est ça, et c'est surtout de poursuivre en justice pour faire peur et pour que les gens se rétractent. C'est pas tant finalement à voir à l'amiable que ça, je trouve.
Bah, c'est ce qu'on appelle un règlement à l'amiable. C'est-à-dire qu'on évite de passer en jugement.
Oui. C'est un règlement à la sicilienne.
Oui, voilà, c'est à l'amiable, mais plutôt du genre mafia, ouais.
C'est ça. Donc on est a priori typiquement dans un truc comme ça. C'est-à-dire si Nintendo avait été jusqu'au bout, ça aurait coûté très cher aux gens qui sont derrière le projet Yuzu. Ça aurait coûté très cher à Nintendo. Est-ce que les gens derrière le projet Yuzu auraient perdu ? Peut-être pas sur tout. Sur certains trucs, vous allez le voir par la suite, probablement. Sur d'autres, probablement pas. Mais quoi qu'il arrive, ça aurait coûté très cher. Ça aurait coûté très cher et des frais qui sont pas forcément remboursés. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu compliqué dans ce genre de cas-là. Donc quand tu es un petit projet qui gagne pas forcément beaucoup, bah t'as intérêt à te coucher en fait. C'est-à-dire que quand ton Nintendo bluff, t'as intérêt à te coucher, quoi. Faut pas jouer. Même si tu sais que t'as peut-être la main, t'as peut-être une paire d'as, faut pas jouer, faut pas le tenter.
Ouais, eux, c'est carrément la banque, donc faire gaffe, quoi.
C'est ça, tu voilà. C'est, malheureusement, dans ce genre de cas-là, on en revient au truc de Sony de tout à l'heure. Hein. Quand t'as un peu de pognon et que t'as les reins suffisamment solides, ils ont 11 milliards à brûler en avocat avant de laisser tomber, donc arrête-toi. Voilà, donc les motifs de Nintendo, en gros, c'était Tears of the Kingdom a été téléchargé près d'un million de fois. Donc ça grève, d'après Nintendo, d'autant les ventes. Alors 10 millions de jeux vendus, 1 million de téléchargements du jeu.
On est sur un dixième quand même.
Un dixième, après...
Ouais, c'est pas rien quand même, ouais.
On peut discuter. Est-ce que tous ces exemplaires sont des pertes sèches?
Ça.
Très discutable.
Ouais.
Est-ce qu'il y a encore une fois un certain nombre de gens qui ne l'auraient de toute façon jamais acheté, un certain nombre de gens qui l'avaient déjà acheté, qui l'ont téléchargé par curiosité? C'est mon cas, par exemple. Voilà. Donc... Le pourcentage exact de ventes que ça grève, c'est un éternel débat dans l'industrie du jeu vidéo. Ça me rappelle un truc très rigolo, un mec qui disait, voilà, c'est très très simple, tu télécharges un jeu 2 millions de fois, à $60 le jeu, tu as donc ruiné EA, tu rachètes EA pour $1 symbolique, tu effaces tous les jeux, pouf, tout d'un coup, t'as gagné 2 millions de dollars, enfin 10, 1 million par $60, et voilà. Problème
réglé. Faut l'expliquer au mec de Unity, ça. Ouais, non.
Ça tire à balles réelles. Voilà, le deuxième chose qui était reproché, c'était faire la promotion du piratage. Et apparemment, les communiqués de presse de Yuzu étaient quand même un petit peu orientés. C'est-à-dire que dans les communiqués de presse, on pouvait lire « Vous pouvez jouer à Tears of the Kingdom dès maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre sa sortie. »
Là, pour moi, c'est là où ils ont déconné.
Voilà, là c'est pas le bon plan. Mais ils savent, pourtant, il y a des précédents avec Nintendo, ils savent que c'est un terrain un peu miné, ils auraient dû faire gaffe, quoi.
Bah là, je pense que
essayer d'être le plus neutre possible.
C'est ça, c'est-à-dire que dire tu peux jouer à tes propres backups que tu as fait toi-même dumper sur ta Switch de tes jeux sur ton PC et même en améliorant.
En bonne foi. Ouais.
Alors en bonne foi non, enfin, soyons un peu.
Non mais niveau communication ça semble bonne foi.
C'est ça. Tu peux plaider la bonne foi. Tu peux aller dire mais c'est pour permettre aux gens d'aller jouer aux jeux qu'ils ont acheté eux-mêmes et tout ça. Maintenant si tu commences à dire eh, vous pouvez jouer à Tears of the Kingdom en avance, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'ils sortent. Là, à mon avis, tu franchis une ligne rouge. Encore une fois, c'est toujours une question de... Il n'y a pas de zone grise, mais il y a un moment où tu vas mettre le pied à un endroit où il fallait pas le mettre. Et là, t'as ton Tendo qui va te tomber dessus. Avec un gourdin de 11 milliards. Il y a la monétisation. Alors ça pose un vrai problème. Apparemment, enfin, le projet Yuzu avait un Patreon qui était ouvert et qui récupérait quasiment 27 000 euros par mois pour le développement de Yuzu. Ça fait quand même une petite somme.
Ouais.
Et l'impression que ça donne. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que la meilleure version, c'est-à-dire en fait les versions de preview, celles qui étaient plus compatibles, qui avaient des fonctionnalités un peu plus avancées, étaient réservées aux gens qui étaient un abonné, je sais plus quel tiers, sur Patreon. Donc, genre, faut lâcher 10 balles par mois pour avoir la meilleure version.
Ouais, là ça commence à... Parce que là c'est que tu commences à avoir des espèces de systèmes d'abonnement finalement.
T'as de la monétisation. T'es plus sur un truc open source gratuit.
Oui, là t'es dans le dealer. Hein.
Là, ouais. Là tu commences à être un peu dans le dealer. Ça,
même
c'est
chose, je trouve ça autant le payer une fois, pourquoi pas. Je trouve ça un peu dérangeant d'avoir un abonnement en fait.
Ouais, là c'est pareil, ça peut. C'est un petit peu gênant. Mais même le payer une fois, ça veut dire que tu vends un logiciel qui est. Pour une utilisation commerciale qui est en cours. On revient au cas de Sony avec Blim. Hein. Le problème, c'est 1999, Blim sort, la PlayStation 2 n'est pas encore sortie, donc il y a encore une exploitation commerciale de la PlayStation. Donc Sony considère que c'est des ventes en moins pour sa console. Je pourrais comprendre que Nintendo dise c'est de la concurrence déloyale. Même si elle n'a pas grand-chose de déloyal. Quoique, ils peuvent pas vendre les jeux. Je sais pas, là, est-ce que c'est de la concurrence déloyale?
Le jour où il est dispo sur Steam Deck...
Il est dispo sur Steam Deck.
Voilà.
Je rappelle que pour la présentation du Steam Deck, Yuzu trônait fièrement dans les icônes qui étaient présentées subrepticement par les mecs de Valve.
Bien, Valve, très bien.
Tu vois, ça commence à être un peu...
Eux aussi, ils sont un petit peu taquins.
Toujours pareil, s'il n'y a pas de monétisation... ton tact. Mais là, le fait est, pour pouvoir utiliser, si tu vends Yuzu, en fait, le seul moyen d'utiliser Yuzu, c'est de pouvoir dumper tes jeux. Le seul moyen de dumper tes jeux, c'est d'avoir une Switch. Donc pourquoi t'irais acheter Yuzu, toi? Tu vois, t'as quand même un... T'as quand même un truc là où je peux pas, tu vois, je peux pas me mettre à la place de Nintendo et dire ok, s'ils font pas la promotion du piratage.
Le seul moyen de dumper tes jeux, c'est d'avoir une Switch, sauf si quelqu'un l'a fait pour toi, quoi.
Ouais, si c'est un copain de l'autre bout du monde et tu l'échanges par BitTorrent, parce que bon, c'est un peu plus simple, ça va plus vite. C'est un petit peu limite, reconnaissez.
Oui.
Alors, deux autres trucs qui étaient un petit peu rigolos. Donc, Yuzu donnait des instructions très précises pour récupérer les clés privées nécessaires au déchiffrement des jeux. Donc pareil, il ne te donnait pas les clés elles-mêmes, mais il te donnait vraiment le tuto complet pour récupérer les clés de déchiffrement.
Pas le bon plan, ça non plus.
Encore une fois, le fait que ce soit attaché à l'émulateur pose problème. C'est-à-dire, ce serait juste un gars dans un coin, chercheur en sécurité, qui te dirait comment tu fais. Là, tu tomberais plus dans du fair use, je pense.
Ouais.
Quand même, voilà.
C'est vrai que selon le contexte, ouais.
Oui, mais là, là tu achètes le plan pour foutre le bordel, quoi.
Et ça commence un petit peu, voilà. Et apparemment, Yuzu partageait des tutoriels un peu trop généreux, je cite, sur comment extraire un firmware, un jeu. Donc en soi, c'est pas du contournement, voilà, il te donnait pas le contournement direct, il te distribuait pas le firmware, il te distribuait pas tout ça, mais il te filait, c'était pas, entre guillemets, très prudent. Il n'y avait pas vraiment de séparation entre les mecs qui font l'émulateur, donc qui font le logiciel, la façon de fonctionner, et ainsi de suite, et les gens qui savent extraire les clés, et les gens qui savent dumper le firmware. Il n'y avait pas assez de séparation, c'était un peu trop la solution tout en un qui te permettait en un clic de tout faire.
Ouais, c'est... Pareil, de la part des devs de Yuzu, en fait, je trouve ça très étrange, parce que Nintendo, dès qu'il y a un truc, ils envoient les avocats, en fait. Donc, bon... Je trouve ça très étrange qu'il se soit pas dit « Bon, bah, c'est un peu chaud, on va peut-être éviter de le faire. »
Je comprends l'envie de dire « On veut faire un truc exhaustif qui marche pour tout le monde, mais là... »
J'exclus pas qu'on n'est pas à l'abri de la maladresse générale, quoi. Tu vois.
Oui, il faut jamais attribuer à la malice ce qu'on peut attribuer à la bêtise, hein, mais...
Oui, c'est ça.
Là, quand même, enfin, tu vois, ça fait beaucoup, en fait. Je pense que, encore une fois, sur certains trucs, Yuzu aurait pu s'en sortir. Parce que finalement, dire comment dumper les jeux, dire comment récupérer les clés privées pour les déchiffrer, et ainsi de suite, bah, finalement, ça n'est que permettre aux gens d'appliquer leurs droits légitimes à la copie privée. Mais.
Peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, mais s'ils avaient publié ce genre d'informations dans 4 ans, à l'époque de la Super Switch 2, on aurait eu le même bordel ou pas?
S'il n'y avait plus d'utilisation commerciale, je pense que... Non.
Ça aurait été différent, quoi.
Ça aurait été un peu différent. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait une utilisation commerciale, ce qui a dû la mettre en travers de la gorge de Nintendo, je pense vraiment, ce qui a dû les faire voir rouge, c'est le coup de Tears of the Kingdom qui a été fuité... Quelques jours avant sa sortie officielle, qui était jouable sur Yuzu, qui a été téléchargé énormément de fois. Et si les mecs ont surveillé les téléchargements entre le moment où ça a fuité et la sortie du jeu, et que c'est pendant ce temps-là que ça a fait les 1 million, ouais, là, clairement,
ah oui, c'est un peu chaud les marrons. Ça les a foutus, mais surtout qu'ils aiment pas du tout que les jeux fuitent avant leur sortie. Il y a eu le cas avec Smash Bros, hein, ils étaient pas contents, les gars.
Ça a tendance à les vénérer un peu parce que, bah oui, c'est une. Je rappelle, Nintendo, c'est un éditeur, c'est une mécanique bien huilée. Il y a des NDA que signent. Enfin, même nous, si on voulait tester un jeu Nintendo, de temps en temps, on aurait la capacité de le faire. On a des NDA à signer, donc on a un accord de non-divulgation à signer. Il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler avant une certaine date, et ainsi de suite. Et il y a des contreparties. Enfin, voilà, c'est pas un. C'est beaucoup de logistique et c'est beaucoup d'argent derrière. Parce que c'est du marketing, parce que c'est de la publicité, parce que voilà. Donc, je comprends que ça les fout un peu colère, quoi.
Oui, puis il y a aussi le fait que, tout simplement, tu développes un jeu pendant 6 ans, t'as envie de récupérer les boursouffes dessus, quoi.
C'est clair. Donc, Yuzu a fini par se ranger. Ils ont accepté de tout supprimer. Alors, tout supprimer très relativement, puisque c'était un GitHub, et donc, en fait, il y en a à peu près 30 copies qui existent aujourd'hui, hein, on va être clair. Tu veux récupérer Yuzu tel qu'il était.
C'est l'effet Barbara Streisand, ouais.
Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient une copie se sont mis à la réuploader sur Internet pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, si vous voulez trouver Yuzu aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Ça se trouve très très bien, même encore maintenant. Mais officiellement tout a été supprimé, le Patreon a été fermé. Ce que je ne sais pas, c'est si tout a été cédé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été obligés de rétrocéder tout le code à Nintendo ? Dans ces cas-là, ce serait bon plan, tu vois, les mecs ont été payés, certes. Mais tu vois, les gars récupèrent le code de l'émulateur. Alors...
Ils ont fait un émulateur pour la Switch, la Super Switch 2, c'est bien.
C'est ça. C'est exactement ça.
Voilà, et le projet Yuzu a accepté de payer 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts.
Ça, par contre...
Alors, oui et non, parce que si vraiment Nintendo considère que les 1 million de Tears of the Kingdom qui ne sont pas vendus, ça fait 60 dollars multiplié par 1 million, c'est pas 2,4 millions qu'ils auraient demandé.
Ouais, tu touches pas 100% du truc. Mais...
Non, mais même si t'enlèves la TVA, le machin, comme c'est Nintendo qui est éditeur, développeur, tout ça, ils doivent bien toucher au moins, je dirais, 20 à 25 dollars,
ouais. Okay.
Par jeu. Donc tu vois, 2,4 millions de dollars, t'es plutôt sur... Bon, c'est pas l'amende symbolique ?
Bon plan, quand même.
Mais enfin non, puisqu'ils ont 11 milliards, donc c'est une goutte d'eau en plus. C'est vraiment plus pour faire peur.
Le symbole.
Ça m'étonnerait qu'ils aient chopé qu'ils puissent choper le code, parce que finalement, ça ne leur appartient pas.
Alors,
ça appartient au mec de Yuzu.
Ouais, mais étant donné que c'était open source, et je ne sais pas sous quelle licence, je ne sais pas s'ils ont le droit d'interdire l'utilisation de ce code. Alors là, par contre, ça dépasse largement les compétences juridiques que j'ai. Pourtant, je connais très très bien l'open source, mais voilà. Tu fais un logiciel qui est sous une licence 100% ouverte, et il y a Nintendo qui t'attaque. Je sais pas, tu vois, il y a Nintendo qui t'attaque en disant bah non, ton logiciel il viole notre copyright. Est-ce que ça annule ta licence de facto ? Est-ce qu'ils le récupèrent ? J'en sais rien du tout. Voilà, donc c'est pas si évident que ça. Là, on est vraiment dans un trou.
Ouais, effectivement, ce serait bien. Il faudrait se renseigner là-dessus.
Vraiment, j'en ai aucune idée. Faudrait que je demande à des vrais juristes ce qu'ils en pensent. Parce que je ne sais pas. Faudrait que je les fasse bosser dessus, c'est genre pendant 2 semaines. Nous, on en a besoin de ça, c'est très important. On a une vraie question.
Le peuple doit savoir.
C'est important, ouais. Bref, mais enfin bon, quand il y en a un qui tombe, il y en a des dizaines qui se relèvent.
Ah, mais ça...
Donc on en a, il y en a déjà 2 ou 3, je crois, qui sont soit des forks, soit en réalité des projets qui existaient déjà et qui faisaient déjà un émulateur.
Yuzuzu.
Alors, il y a un truc qui s'appelle Yuzuzu.
Sérieux ?
Oui, il y a un truc qui s'appelle Yuzuzu. Et il y en a un qui me fait beaucoup rire qui s'appelle Suyu. En anglais, Suyu, ça veut dire... Enfin, Sumi, ça veut dire fais-moi un procès. Et en gros, Suyu, c'est bah, fais-toi un procès, quoi.
Oh, le petit bâtard. Ah oui, Zergy qui nous dit que Citra aussi est tombé. Ça fait chier.
L'émulateur 3DS, mais alors je crois que c'est eux, ils ont fermé volontairement.
Ah bon ?
Il me semble. Hein. Ce que j'avais compris, c'est qu'eux, ils avaient fermé volontairement en disant bon, on va être les prochains sur la liste. Ce qui est pas sûr. Parce qu'en réalité, la 3DS. Enfin, ça fait longtemps que Nintendo s'en branle, la 3DS. Donc...
Oui, après, je comprends qu'ils préfèrent se préparer au truc et éviter de payer quelques millions.
Bah surtout si c'était peut-être pas un projet qui avait autant de moyens que Yuzu, parce que je sais pas si tu vois, 27 000 dollars par mois sur Patreon, alors ça servait à financer le développement, certes, mais les mecs devaient quand même se mettre un peu bien, je pense, malgré tout. C'est-à-dire s'ils ont accepté 2,4 millions de dommages et intérêts, c'est qu'ils avaient a priori
qu'ils avaient
les moyens
de le
faire.
Payer, je pense, ouais.
Alors après, je dis pas qu'ils vont pas payer ça toute leur vie. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Si ça se trouve, la dette va être perpétuelle, et voilà, c'est du dommage et intérêt, donc c'est le genre de truc où tu peux payer toute ta vie pour quelqu'un d'autre, c'est assez pénible, je pense, donc je ne dis pas que les mecs sont à l'abri du besoin, et que tout va bien, et qu'en fait, ils ont juste remboursé ce qu'on leur avait filé sur Patreon, c'est pas du tout ça que je dis, ça les fout probablement financièrement un peu dans la merde, parce que...
Sûrement, oui. Zergy nous dit que Citra et Yuzu étaient faits par les mêmes personnes, de mémoire.
Donc si ça
se trouve, Nintendo a dit « Votre machin, la 3DS, vous me le virez. » Ça, je veux plus en entendre parler.
Mais là, c'est pareil. Citra, tu peux... Il y a d'autres clones, il y en a d'autres. Il y avait d'autres émulateurs 3DS qui existaient, qui vont prendre de l'importance. Là où Suyu, par exemple, a été très 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 malin, eux, ils se sont lancés comme défi de passer sous le radar de Nintendo. Je suis très sérieux. C'est vraiment...
Avec un nom pareil.
Ils sont taquins quand même, ça n'empêche pas. Mais leur idée, c'était dire, nous, on fait vraiment juste l'émulateur matériel. on n'indique pas comment récupérer les clés de chiffrement, on n'indique pas comment dumper les firmware, on n'indique pas si, on n'indique pas MIF, c'est vraiment...
Oui, on distribue pas les firmware ni quoi que ce soit, les gars font le truc bête, le truc sur lequel t'as pas d'emmerde depuis que les émulateurs existent, hein, finalement, c'est juste l'émulation telle quelle, tu te démerdes pour le reste.
Voilà. Et donc, ils n'ont pas de promotion particulière. En fait, je pense qu'ils ont lu les griefs qu'avait envoyé Nintendo, ils se sont dit, bon, ok, ça c'est vraiment du bullshit. Ça c'est surréaliste, par contre ça oui ok, on note, donc faut pas faire ça.
Voilà. C'est bien, que... ça fait des précédents.
Bah ça fait des précédents, puis surtout ça fait un truc où si Nintendo réattaque en disant bah ouais mais il y a ça, ils peuvent toujours dire bah ouais mais non, en fait là c'est fair use, là c'est machin, là c'est... On n'a pas fait la même connerie que le voisin, alors peut-être que vous pouvez nous attaquer, mais pas pour la même chose. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est le genre de truc où en fait, c'est entre guillemets très impressionnant sur le papier, quoi. Ils ont tout fait fermer, 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts, et tu te dis, ah, c'est le cataclysme, en fait, bah, pas du tout. Est-ce que ça va stopper le piratage de jeux Switch?
Non.
LOL!
Je pense pas, LOL, voilà. Est-ce que ça va le ralentir? Probablement, mais peut-être pas pour très très longtemps.
Pas tant, à mon avis. Est-ce que ces millions de dollars ont contribué à former le 11e milliard de Nintendo? Peut-être.
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 Je ne sais pas. Je sais pas si il faudrait regarder dans les bénéfices de Nintendo les frais d'avocat. C'est ce que ça leur coûte par rapport à ce que ça leur rapporte, à mon avis, c'est pas très rentable.
Maintenant, les tirettes des portes sont en or.
Belle référence. Très belle référence. Bref, je suis content qu'on soit revenu sur ce truc, Yuzu, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui criaient avec les bras en feu dans les couloirs en mode c'est horrible machin. Bah non, mais en fait tout s'explique quand on prend le temps de se documenter. De
Nintendo pas gentil, tous les voyants sont tout rouges.
Non, on a quand même eu un connard sur Twitter qui nous a dit mais vous défendez Yuzu alors qu'ils font du mal à Nintendaddy. Nique ta mère quoi. Je veux dire. C'est bon, ils sont achis sur 11 milliards de cash, ça va pas leur faire un deuxième trou du cul. Hein. Et en plus,
bon, c'est surtout bon. Voilà. Quand on sait pas, moi, ma maman m'a toujours dit hein, quand tu sais pas, tu fermes ta gueule.
Amen.
C'est marrant, ma maman me disait la même chose.
Putain, tu viens de tuer Twitter. Ah, putain, c'est ouf, tu viens de tuer Twitter.
Ah bon, on a tué Twitter.
Mince. Oups.
Oups. Oupsie doodle. Désolé. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup parlé. C'était intéressant comme sujet de fond. Ça faisait.
Ouais, putain, j'ai appris plein de trucs. Merci.
Moi aussi, j'ai appris plein de trucs. Voilà. En préparant le truc et puis en vous écoutant aussi, parce qu'il y a, quand même. Voilà. Il y a de l'aller-retour. Et. Je sais plus où j'en étais. Plop, je couperai au montage.
C'était intéressant. Aller-retour.
Plop. Vas-y. Donc c'était vachement intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans deux semaines. Je ne sais pas de quoi on parlera. J'ai très très envie. Je vous propose un petit truc. J'ai très 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 envie puisqu'on est aux 7 ans de la Switch.
Putain déjà.
Vous vous sentez vieux ou pas?
Putain, 7 ans.
On est aux 7 ans de la Switch. Donc j'ai extrêmement envie de parler des portages impossibles sur Switch, parce qu'on en a eu quelques-uns quand même, et il y en a un qui sort ce vendredi, qui est Kingdom Come Deliverance.
Oh putain.
Alors du coup, je vous annonce tout de suite que vendredi, il va y avoir un live Twitch là-dessus, parce que je bave d'envie de regarder comment ça tourne, ça m'a l'air tellement impossible que voilà, mais il y a eu quelques portages de l'impossible, et j'ai très 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 envie d'en reparler. Parce que je crois qu'on avait déjà un petit peu parlé.
Il y avait Doom.
Witcher. Doom Eternal, The Witcher.
Putain, attends, il y a Doom et... Quoi?
Bah oui.
Eternal, il y est aussi?
Oui.
Bien
tu
sûr.
Tu veux que je te le prête?
Attends, quoi?
Oui.
Il y a Witcher 3. Était pas sorti.
Non, mais il y a Witcher 3, il y a The Outer Wild.
Oh putain, ça aussi...
C'est foufou. Voilà, t'as quand même les Crysis, malgré tout. C'est peut-être pas des portages de l'impossible, mais c'est quand même des portages de très très bonne qualité. Donc tu vois, des portages un peu foufous sur Switch.
Oui, il y a les Wolfenstein.
Il y a les Wolfenstein, il y a Wolfenstein 2 et effectivement Youngblood. Merci beaucoup JBC. Mais voilà, tu vois, je me dis qu'il y a un petit sujet d'émission un peu rigolo à faire. En plus, il y a Kingdom Come Deliverance, donc on est Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1. Encore une fois, merci, oui JBC. Oh. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit potentiel pour faire une émission un petit peu rigolote, je pense. En attendant Unicorn Overlord.
Ah, putain, je me disais, c'est quoi Mortal Kombat 11 janvier, là?
11/1, donc
tu, tu, non, mais là, Mortal Kombat, ça va. De la part d'un jeu Kingdom Hearts, j'aurais eu le doute, mais ça va, c'est Mortal Kombat.
Non, mais tu vois, c'est là, on va pouvoir catégoriser les gens, tu vois. Il y a les mecs qui ont absolument pas de testicules et qui sortent Kingdom Hearts en version cloud, et puis il y a les mecs qui portent Kingdom Come Deliverance sur Switch, tu vois.
Square Enix.
Voilà, bref, donc si ça vous tente, on peut faire ça, sinon c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on trouvera autre chose. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on parlera de Unicorn Overlord, mais plutôt dans un mois. Parce que...
Jouez-y,
plutôt
putain.
Dans 3-4.
Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il va quand même falloir qu'on avance un minimum dans le jeu pour pouvoir en parler.
Bah,
donc,
c'est ça.
On y arrive en 2 semaines.
Le problème, c'est que pour avancer dans le jeu, il faudrait que je puisse me fournir la collector et il n'y a plus de collector.
Bah, alors là, tu peux utiliser la version normale, hein.
Non, je veux la collector.
Il peut pas jouer sans la collector, voyons. C'est littéralement injouable si t'as pas la collection.
Bah évidemment.
C'est parfait. Bref, donc quoi qu'il arrive, on vous retrouve. Donc semaine prochaine, même heure, même endroit, ce sera Metroid Prime, 3e partie, si je dis pas de bêtises.
Comment c'est rigide ?
Un peu plus tôt, quoi ?
Le scénario de Kingdom Hearts, c'était trop bordélique pour tenir sur Switch sans cloud. C'est horrible. C'est
horrible, mais vrai.
C'est drôle parce que c'est vrai. Bref, donc je disais, dans une semaine, Metroid Prime, 3e partie, si je ne dis pas de bêtises.
Ou 4e. Je sais plus. Je suis en train de les publier là, sur PeerTube, si vous voulez voir. Voilà. Enfin, sur le dojo, si vous voulez voir.
Sur le dojo, sur le YouTube du dojo, si vous voulez voir aussi. Vous avez le droit. Donc ce vendredi, Kingdom Come Deliverance, c'est obligé. Alors, celui-là, il n'y échappera pas. Vendredi prochain, il y aura peut-être une petite surprise en stream. Prince of Persia, comme ça, ce sera fini. Et donc, nous, on se retrouve en podcast la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour un dojo bar. Peut-être avec les portages de l'impossible, peut-être avec autre chose. Je pense qu'on est bien parti. Et en attendant, on vous fait de très, 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 très gros bisous. Et on vous dit à dans 2 semaines. Bisous.
Bisous.
Bisous.